Laudetur Jesus Christus.
Dans une Italie alors confinée, le pape seul sous la pluie place Saint-Pierre suppliait Dieu de guérir l'humanité blessée il y a 5 ans jour pour jour. Il rappelait que personne ne se sauve seul. Ce n'était pas alors l'ombre de la guerre qui planait mais celle de la pandémie de Covid. Il n'y aura pas de levée des sanctions visant la Russie. Les Européens sont sur cette question unanime. Ils ne le sont pas en revanche sur l'envoi de contingents en Ukraine comme garant de sécurité. Tel est le bilan du sommet des alliés de Kiev qui s'est tenu cet après-midi à Paris. Une nouvelle volte face au Soudan du Sud, le pays se rapproche d'un retour à la guerre civile. Le premier vice-président est depuis hier assigné à résidence. Ses gardes du corps ont été arrêtés. Et puis enfin dans ce journal, le Pakistan qui annonce le renvoi d'1 million de réfugiés afghans de son sol.
Radio Vatican, le journal, Marie Duhamel.
Bonsoir à tous. C'était il y a 5 ans, jour pour jour. Des quarantaines étaient imposées en Asie. En Europe, les écoles et commerces fermaient. Des malades étaient identifiés sur tous les continents. L'Italie et la Chine déploraient déjà des milliers de morts. Le monde était plongé dans l'inquiétude d'une pandémie de Covid, faisant alors basculer toutes les certitudes. Et dans ce moment de tempête, le pape avait décidé seul sur le parvis d'une place Saint-Pierre déserte dans la pénombre et sous la pluie d'élever la voix vers le ciel, suppliant le Seigneur de guérir une humanité blessée. Une prière qui fait écho encore aujourd'hui et que nous vous proposons de réentendre ce soir.
Tu nous invites à saisir ce temps d'épreuve comme un temps de choix, le temps de choisir ce qui importe et ce qui passe, de séparer ce qui est nécessaire de ce qui ne l'est pas. C'est le temps de réorienter la route de la vie vers toi, Seigneur, et vers les autres. Et nous pouvons voir de nombreux compagnons de voyage exemplaires qui, dans cette peur, ont réagi en donnant leur vie, montrant comment nos vies sont tissées et soutenues par des personnes ordinaires, souvent oubliées, qui ne font pas la une des journaux. Médecins, infirmiers et infirmières, employés de supermarchés, agents d'entretien, aides-soignants à domicile, transporteurs, forces de l'ordre, volontaires, prêtres, religieuses, et tant d'autres qui ont compris que personne ne se sauve tout seul.
La prière du pape en pleine pandémie est à retrouver sur notre site internet. Vous y retrouverez également les images de ce moment, la Stasio Orbis, un des moments les plus marquants du pontificat. Le pape François s'était rendu sur place en 2023 à Juba, capitale du Soudan du Sud. Il en appelait aux dirigeants de ce tout jeune État chrétien de se ranger du côté de la paix. Une feuille de route avait été signée, mais l'accord entre Salva Kiir, le président, et son premier vice-président Riek Machar n'est plus. Ce dernier a été assigné à résidence, tandis que ses gardes du corps ont été arrêtés. Les précisions d'Augustin.
Il était 22h hier soir lorsque les forces gouvernementales ont encerclé la résidence du premier vice-président sud-soudanais Riek Machar. Ce dernier dirige aussi le principal parti d'opposition, le SPLM-IO, face au parti du président Salva Kiir, le SPLM. En 2018, ces deux rivaux ont signé un accord de paix, mettant fin à 5 années de guerre civile qui a fait environ 400 000 morts. Dans un communiqué, le vice-président du SPLM-IO prévient que l'arrestation et la détention de Riek Machar abrogent de fait ce traité. Dans un premier temps, nous privilégierons le dialogue. Si cela échoue, nous nous tournerons vers d'autres options, m'a expliqué le porte-parole de ce parti, Piotr Bot. Le 4 mars, l'armée blanche, une milice proche de Riek Machar, s'est emparée d'un camp militaire appartenant aux forces gouvernementales. Ces dernières ont répliqué avec des bombardements aériens sans épargner les civils. En 2018, la guerre a pris fin lorsque le Soudan et l'Éthiopie ont fermé leurs frontières pour empêcher le ravitaillement militaire. Mais aujourd'hui, le flot d'armes est important et le risque d'une guerre par proximité entre les puissances régionales telles que le Soudan, l'Éthiopie et l'Ouganda est réel, alerte l'analyste Remember Miamingi. Addis Abeba, Augustine Passy pour Radio Vatican.
Et puis au lendemain de l'arrestation du vice-président sud-soudanais, le Kenya annonce l'envoi d'un médiateur pour tenter de désamorcer la crise. De l'autre côté de la frontière au Soudan, la guerre entre les généraux va rentrer la semaine prochaine dans sa 3e année. Les paramilitaires ont essuyé il y a très peu des revers dans la capitale Khartoum, quasi reprise par l'armée, mais les forces de soutien rapide assurent ce soir qu'il n'y aurait ni retraite ni reddition. Et puis autre nouvelle du continent, en Guinée, la junte au pouvoir a annoncé qu'elle allait indemniser les victimes du massacre du 28 septembre 2009. Au moins 156 personnes avaient été tuées dans la répression d'un rassemblement de l'opposition dans un stade de Conakry. Ce n'est plus la pandémie, mais un vent de guerre sur fond d'impérialisme qui souffle sur le monde. En Ukraine, l'accord fragile scellé il y a seulement deux jours via les États-Unis semble avoir volé en éclats. Russes et Ukrainiens s'accusent ce soir d'avoir violé le moratoire sur les frappes visant le secteur énergétique. Et puis parallèlement au processus de négociation engagé par l'administration Trump avec Kiev d'une part et Moscou d'autre part, les Européens se mobilisent. Un sommet réunissant les alliés européens de l'Ukraine s'est tenu aujourd'hui à Paris en présence du président Zelensky et sous l'impulsion de la France et du Royaume-Uni. Les deux pays se disent prêts à déployer des troupes sur le terrain comme garantie de sécurité en cas d'accord. Une idée que certains États rejettent. Il y a en revanche consensus. Les sanctions pesant sur la Russie ne seront pas levées. On revient sur ce sommet de Paris avec Bastien Bory.
À peine reformé depuis la rupture du Brexit, le couple franco-britannique risque déjà gros. Paris et Londres proposent en effet d'envoyer une force de réassurance et de soutien à l'armée ukrainienne. Il ne s'agit nullement de s'interposer entre les belligérants, mais de dissuader une potentielle agression russe à l'avenir, selon le président Macron, une fois un hypothétique accord de paix signé. Tout en voulant maintenir les sanctions contre Moscou et en demandant aux Américains et aux Chinois un rôle actif dans ce nouveau dispositif, a-t-il ajouté, Emmanuel Macron semble jeter les bases des prochaines interventions militaires européennes. En l'occurrence, des soldats français, britanniques et européens seraient déployés dans les grandes villes ukrainiennes ainsi que dans les ports et près des infrastructures énergétiques du pays. Ce plan, en préparation depuis plusieurs semaines, prévoit aussi un soutien aérien et naval, laissant penser que la Turquie, invitée à ces trois heures de sommet parisien, laissera les frégates françaises et anglaises traverser le Bosphore pour se stationner en mer Noire. Réponse du berger à la bergère, l'Europe menace d'agrandir la fracture avec les États-Unis au sein de l'OTAN et attend désormais la réponse de la Maison-Blanche. Bastien Bory à Kiev pour Radio Vatican.
Les relations transatlantiques à l'épreuve de l'Ukraine et du protectionnisme en marge du sommet de Paris. Le président français espère que son homologue américain reviendra sur sa décision d'imposer 25% de droits de douane supplémentaires sur les automobiles fabriquées hors des États-Unis. L'Europe agira avec calme et bon sens, mais pas à genoux, pour sa part, déclaré le premier ministre polonais. En tout cas, l'annonce a fait chuter à Wall Street les actions de constructeurs automobiles comme General Motors, qui a chuté de près de 8%, mais aussi Ford, Stellantis, Toyota ou encore Honda. Au Mexique, autre pays visé par la hausse des droits de douane, la présidente Sheinbaum a assuré préparer une réponse intégrale, mais à vous chercher un traitement préférentiel face aux hausses des droits de douane sur les automobiles. Et c'est dans ce contexte que le groupe américain de supermarchés Walmart, poids lourd dans la grande distribution, a annoncé à Mexico un investissement de 6 milliards de dollars en 2025 au Mexique. Et puis enfin aux États-Unis, cette nouvelle purge dans l'administration fédérale, le ministère américain de la Santé annonce supprimer 10 000 emplois. Au Pakistan, les autorités vont renvoyer de chez eux près d'un million d'Afghans en situation régulière et irrégulière. Islamabad leur a donné jusqu'à lundi pour quitter le pays. Cette décision intervient alors que les attentats préparés depuis le territoire afghan se multiplient au Pakistan. Emmanuel Derville.
Le compte à rebours touche à sa fin. Au 31 mars, tous les Afghans clandestins ou détenteurs d'une carte de résidence devront avoir quitté le Pakistan. Passé ce délai, ils seront expulsés. Plus de 800 000 personnes, certaines installées dans le pays depuis des décennies, vont être forcées à l'exode. L'ordre d'expulsion a été publié par le ministère de l'Intérieur le 7 mars. Cette décision met en danger ceux qui ont travaillé avec la coalition occidentale ou l'ancien régime et qui attendent toujours d'obtenir l'asile aux États-Unis. Ils craignent d'être assassinés dès leur retour en Afghanistan. Mais le gouvernement pakistanais est déterminé à faire pression sur les talibans afin qu'ils répriment des groupes terroristes qui profitent de leur base arrière afghane pour intensifier leurs opérations. Le nombre d'attentats a été multiplié par 2 en 3 ans au Pakistan, tuant 850 victimes l'an dernier. Le pouvoir taliban prétend n'abriter aucune organisation terroriste. En coulisses, le régime durcit sa répression envers les femmes et reste proche d'Al-Qaïda. New Delhi, Emmanuel Derville, Radio Vatican.
En France, 7 ans de prison et 300 000 euros d'amende ont été requis contre un ancien président jugé depuis le début janvier, Nicolas Sarkozy, et jugé pour corruption, recel de détournement de fonds publics, financement illégal de campagne et association de malfaiteurs. Dans ce procès portant sur des soupçons de financement libyen de sa campagne de 2007, Nicolas Sarkozy dénonce l'outrance de la peine réclamée et promet de se battre. En France, le président libanais Joseph Aoun est attendu à Paris demain pour sa première visite en Occident. Les nouveaux dirigeants libanais ont une tâche tâche ardue, superviser le processus de désarmement du Hezbollah, mais aussi mener les réformes réclamées par la communauté internationale pour débloquer les fonds nécessaires afin de sortir le Liban de la crise économique qui dure depuis plus de 5 ans. Et ce jeudi, à la veille de cette visite, le gouvernement libanais a nommé un gestionnaire de patrimoine, Karim Souaïd, à la tête de la Banque du Liban. Et puis enfin à Gaza, les réserves d'aide alimentaire de l'ONU seront bientôt épuisées. Le PAM indique dans un communiqué aujourd'hui disposer d'environ 5700 tonnes de réserves alimentaires, de quoi nourrir des familles pendant seulement 2 semaines. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité à Radio Vatican. L'actualité du monde revient demain matin à 8h30, actualité de l'Église également. Excellente soirée.